100% parler tout l'été.
Il est 15h, bon retour à la maison sous le soleil et surtout la chaleur accablante à Québec, c'est 35 au ressenti. Sur la route, c'est vraiment pas si mal. En fait, sur la rive nord, ça roule super bien. Il y a sur la rive sud ou la 20 direction ouest, ben les problèmes pas mal habituels là, sont présents et persistants. La 20 ouest entre route du président Kennedy et à peu près le chemin des îles, c'est au rouge, puis ça va revenir un petit peu au ralenti dans le coin de Taniata. Comme c'est le cas là, depuis plusieurs semaines en raison des travaux. On va aller faire une petite saucette dans une région que j'aime beaucoup. J'y ai fait mes études il y a quelques années du côté de Jonquière. On s'en va du côté de la circonscription fédérale de Chicoutimi, le Fjord, où il y aura une élection partielle en raison du départ de Richard Martel, conservateur qui deviendra sénateur. Donc la circonscription se libère et on va faire des élections et on a appris hier que cette élection partielle-là, comme d'autres à travers le pays, va se tenir en pleine élection. Fait que, vous comprendrez qu'ailleurs au Canada, ça change comme rien, mais pour ce qui est du Québec, ben, on va être dans les élections provinciales et on a le plaisir de recevoir au bout du fil Daniel Gobeil, qui est le candidat du Parti libéral du Canada pour la partielle dans Chicoutimi-le-Fjord. Monsieur Gobeil, bonjour.
Oui, bonjour.
Comme je le mentionnais, la partielle qui va se tenir en pleine campagne électorale provinciale, alors que de votre côté, bon, vous serez au fédéral, vous craignez pas que votre campagne soit un petit peu éclipsée à cause de ça?
Bien, clairement, c'est sûr, on décide pas hein, du moment de déclenchement des élections. Puis des bons moments, c'est pas évident de trouver le meilleur moment. Mais moi, comme candidat, bien, clairement, ce que je suis fier, c'est que rapidement, ben, Chicoutimi-le-Fjord va avoir une voix. C'est dès la rentrée parlementaire au mois de septembre, les citoyens là de Chicoutimi-le-Fjord pourront avoir une voix, s'ils le désirent, à la Chambre des communes, puis une voix forte là pour représenter là, au niveau du gouvernement Carney.
Vous dites qu'on choisit pas le moment, puis vous avez bien raison en tant que candidat, mais ça reste quand même votre chef, Mark Carney, qui l'a décidé ce moment-là?
Oui, ben effectivement, c'est une succession d'événements qui ont amené avec la nomination de M. Martel, vous l'avez bien dit, mais on voit quand même là, différentes actions de que ça soit M. Carney, que ça soit tous les ministres fédérales en ce moment. Puis quand j'ai eu des discussions avec eux, ben c'est pour contribuer justement là, à tout ce qu'on vit en ce moment avec l'incertitude économique, avec les enjeux là de pour bâtir un Canada fort, puis travailler l'ensemble à répondre aux attentes des gens, là, des Canadiens.
Donc, de ce que je comprends, M. Gobeil, vous l'avez eu la discussion avec certains individus du parti, puis vous l'avez posé la question de « Hey, le moment, tu sais, puis on vous a rassuré avec les raisons qui expliquent le choix, c'est ça? »
Oui, effectivement, là, on sait que M. Lacbon, c'est à Québec, qui est le lieutenant du Québec, est quelqu'un, là, qui, dès les premiers instants, voulait une candidature comme la mienne pour représenter là, les gens, les secteurs économiques qui sont ici. Vous le savez, oui, on a l'agriculture, la gestion de l'offre, mais on a l'aluminium qui est bien représenté, la forêt, le bois, puis bien sûr, là, avec tout ce qu'on connaît, avec la base de Bagotville, avec le port de Grand-Anse en eau profonde. On est une circonscription là quand même avec beaucoup d'enjeux, puis je pourrais même parler des minéraux critiques, là, mais beaucoup d'enjeux là qui sont d'intérêt national.
Oui, effectivement. C'est pas pour rien qu'on vous invite aussi en entrevue. C'est que l'élection partielle dans Chicoutimi risque de retenir beaucoup l'attention, et pas seulement parce que c'est l'été, mais parce que les enjeux qui sont les vôtres sont très, très liés aussi à la guerre commerciale avec les États-Unis. Richard Martel, qui est le député sortant, c'est quelqu'un qui était très populaire dans sa circonscription. Il est là depuis un bon bout de temps. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez échangé en amont de vous présenter pour cette élection-ci?
Non, c'est pas. Je vous dirais que ça a été suite là à son retrait là comme au Sénat que j'ai parlé, j'ai échangé avec Richard puis qui me souhaitait bonne chance dans cette campagne là qui parce que je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de politique, mais je suis pas un politicien. Hein, mais ça fait plus de 10 ans que je travaille avec le gouvernement canadien avec les gens comme François-Philippe Champagne, M. Leblanc. Monsieur Carney, les gens, Marie-Claude Bibeau, qui était longtemps à l'agriculture. Fait que j'ai beaucoup de réseaux là, au niveau du Parti libéral du Canada. Puis c'était pour faire contribuer là, à la population de Chicoutimi-le-Fjord les contacts que j'ai. Puis je pense clairement que je suis capable de porter ces dossiers-là à Ottawa.
D'ailleurs, parlez-nous un petit peu du processus qui vous amène en politique. À quel moment vous avez été approché? Est-ce qu'il y a d'autres partis politiques aussi qui vous ont approché, que ce soit au fédéral ou au provincial?
Oui, ben disons que quand on était piqués comme moi, oui, il y a eu des approches là de tant au niveau provincial que fédéral. Mais comme je disais, ça fait 10 ans là que je suis au niveau du président du Québec et j'ai été 3 ans comme vice-président des producteurs laitiers du Canada. Fait que je suis un gars qui collabore, je suis un gars qui travaille pour unir, pour collaborer, défendre aussi d'où ce qu'on vient puis nos acquis. Puis c'est ça que M. Carney voulait à la table. Puis il connaissait très bien mon passé, puis il savait là qu'ils ont toujours été un défenseur de la gestion de l'offre. Mais au-delà de ça, il me veut aussi une voix là pour élargir mes bases. Puis encore une fois là, ça n'a pas été un choix facile là, vous le savez. Moi, j'ai quitté mes fonctions. Je voulais pas, étant donné que c'est un sujet, on est à politique dans les fonctions que j'occupais par le passé. Puis moi, clairement, j'ai démissionné mes fonctions le vendredi dernier pour me consacrer pleinement à la campagne électorale fédérale.
Et si on en croit le sondage qui a circulé là, dans les dernières heures, c'est pas gagné d'avance non plus pour vous. Vous prenez un certain risque en vous présentant pour cette élection-là. Pourquoi vous avez choisi le Parti libéral? Je comprends que vous avez été approché par plus d'un parti. Pourquoi les libéraux?
Ben, je vous dirais, on voit tout le contexte économique. Là, vous en avez parlé des conflits commerciaux. Au niveau de ce que M. Carney a amené là, comme leadership, au niveau d'amener aussi de l'abordabilité au niveau des consommateurs, des électeurs, de mettre de l'argent dans nos poches, d'amener là, des différents programmes là, pour les entreprises. Je vois vraiment le nouveau leadership depuis 18 mois qui est rafraîchissant. Puis moi, comme leader, ben, je suis un leader positif. Je suis un leader qui fait de la politique pour changer les choses. Puis, est-ce quelqu'un qui veut travailler, comme je vous disais, pour unir, pour bâtir une économie solide? Puis, je voulais pas, là, à ce moment-ci, là, m'engager dans la division puis dans la séparation. J'étais là pour essayer de porter cette voie-là. Oui, c'est pas gagné, vous l'avez dit, troisième parti aux dernières élections. Mais à un moment donné, on y va avec nos valeurs, nos convictions. Puis c'est le leader en qui là, j'ai beaucoup d'estime en ce moment.
Vous dites que ce n'est pas gagné. Une autre chose qui n'est pas gagnée, c'est d'avoir une entente commerciale avec les États-Unis. Est-ce que vous allez vous engager tout particulièrement pour la préservation de la gestion de l'offre? On a vu quand même le gouvernement canadien faire quelques concessions là, depuis le début de la guerre commerciale. Avez-vous obtenu une garantie de M. Carney qu'il n'y aurait aucune concession de fait sur la gestion de l'offre?
Ben, je vous dirais que j'ai eu des discussions à haut niveau, puis clairement, j'ai toujours défendu la gestion de l'offre, puis je vais continuer de porter cette voie-là à plus haut niveau, là, que ce soit pour les ruralités également, parce que je constate chaque jour là, comment est-ce que ça là, c'est important pour l'économie des régions, toute cette occupation-là de territoire. Mais clairement, je pense que dans toute négociation, on est capable de faire des ententes. On a encore, là, M. Carney, 20 ententes économiques et de sécurité là, depuis les 18 derniers mois de signer avec différents pays. On est capable de conclure des accords sans avoir des secteurs là, achetés sous l'autobus. Puis clairement, là, je pense qu'on va arriver à ces résultats-là. Puis mais oui, que ce soit M. Carney, M. Leblanc, différents, là, Mme Joly, j'ai eu l'occasion de parler. Je suis très rassuré par ce que j'entends au niveau de l'équipe libérale canadienne.
Le Bloc québécois vous qualifie de Stephen Guilbeault de la gestion de l'offre, dans le sens où, ou du moins comment on le comprend, là, que vous arrivez un petit peu puis qu'on va vous présenter comme quelqu'un qui est là pour défendre la gestion de l'offre, les agriculteurs, tout ça, mais qu'en bout de ligne, ça se peut qu'on fasse certaines concessions puis que vous ayez peut-être pas grand-chose à dire là-dedans. Comment vous voyez cette attaque-là du Bloc?
Moi, je vous dirais que j'en embarquerai peut-être pas dans la joute là, verbale et politique de M. Blanchet. Je trouve presque que c'est quand même un honneur là, qu'un chef de parti là, s'en prend un candidat de circonscription. Fait que je le prends comme un compliment, puis ce que M. Guilbeault a fait pour le Parti libéral du Canada. Mais soyez assurés que non, je vous l'ai dit, on fait de la politique pour changer les choses, puis pour bien sûr respecter nos valeurs. Puis on va essayer justement d'en faire la promotion, de porter ce message-là à Ottawa, puis de faire de la nouvelle politique avec les gens, bien sûr, qui pourront nous faire confiance là, dans Scutimi-le-Fjord.
Au-delà des partis, connaissez-vous un petit peu vos adversaires comme candidats, que ce soit Caroline Dubé pour le Bloc ou Régis Godreau pour le Parti conservateur? Est-ce que c'est des gens avec qui vous avez eu contact dans les derniers mois, les dernières années?
Oui, bien, Mme Dubé, c'est quelqu'un, là, lorsqu'elle était en l'emploi de M. Simard à Jonquière, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de côtoyer. M. Godreau, là, pas particulièrement, c'est quelqu'un qui a une réputation là, d'avocat, là, une très bonne réputation au niveau régional. Je pense qu'il y a trois belles candidatures là, pour Scutimi-le-Fjord. Puis, on souhaite tous la meilleure des chances, mais clairement, je demande l'appui là, des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et surtout de Scutimi-le-Fjord pour avoir une voix forte pour les représenter là, à Ottawa.
Daniel Gobeil, candidat du Parti libéral du Canada pour la partielle dans Chicoutimi-le-Fjord. Merci beaucoup pour votre présence.
Oui, merci à vous deux.
Bye-bye. Bonne campagne. Daniel Gobeil, la stratégie, puis je sais qu'on va en reparler un petit peu plus tard dans le show, parce que, puis tu sais, je dis stratégie, le mot c'est vraiment ça. Là. Pour Mark Carney, c'est pas au hasard qu'on lance une campagne électorale pour une partielle pendant qu'on va être... Une partielle qui aura lieu en pleine campagne électorale provinciale. Tout est calculé.
Mais en fait, moi je trouve que le pire, c'est pendant l'été. T'sais, parce que ouais. L'overlap, l'espèce d'empiètement sur la campagne provinciale, ça va être quelques jours, là, puis peut-être même une journée. T'sais, ça ne devrait pas être trop long, quoique dans la circonscription de Chicoutimi, ça va être mélangeant là, pour les gens. Là. Parce que nous, on suit ça tous les jours, mais la plupart des gens, ils peuvent même mélanger les paliers gouvernementaux. C'est pas si clair dans la tête de quelqu'un qui suit ça un peu inattentivement. Et en plus, la majorité de la campagne se fait en plein été quand les gens ils sont pas vraiment arrivés devant la télé. Là.
C'est-tu parce qu'on suit moins la politique fédérale que la politique provinciale que j'ai comme l'impression que quand François Legault avait enclenché l'élection dans Arthabasca, il s'était fait beaucoup taper sur la tête justement parce que c'était en plein milieu de l'été. J'ai l'impression que c'est moins le cas pour Mark Carney au cours des derniers jours.
Les politiciens fédéraux sont toujours plus imperméables à la controverse et à la critique. Hein. Ils sont comme plus loin.
On a juste à regarder la controverse au fédéral. Là, pour
les projets informatiques.
Oui, c'est ça. Mais
fait x3 en termes de fiasco, on n'en parle pas. Il n'y a personne qui pense à job.
Tu vois le nom m'échappe là, du fameux système qui coûte 6-7 QRAM.
Merci.
6-7 milliards au lieu de quelques cent mille quasiment. Puis on n'en parle pratiquement pas, alors que c'est bien pire que ça clique. Mais c'est au fédéral, on dirait qu'on n'en parle pas.
Fait qu'il y a ça, mais il y a aussi que François Legault, quand il a déclenché sa partielle dans Arthabasca, il était déjà dans une situation politique difficile. Mark Carney, il est populaire, il marche sur l'eau, ça glisse sur le dos, et il a l'air de particulièrement s'en foutre. Là. C'est comme, ça n'a pas l'air de le déranger plus qu'il faut de se faire critiquer, que c'est pas démocratique, etc. Et l'état des oppositions aussi a un rôle à jouer là-dedans. Quand tu as une opposition, un adversaire politique qui est fort en ce moment, qui retrouve beaucoup d'écoute auprès de la population, bien, ils sont là pour porter le message. Alors que là, les conservateurs puis le Bloc sont pas là présentement. Là, c'est pas le vent dans les voiles nécessairement. Donc, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Maintenant, ça a l'air de... Ils ont l'air d'avoir trouvé un candidat fort, gentil, rempli de bonnes intentions. On retrouve un peu les messages clés qui lui ont
Canada
été fournis.
Fort,
ouais, exactement. Puis que M. Carney, c'est lui qui va réussir à nous faire passer à travers la tempête. Il a bien placé ses enjeux régionaux qui sont effectivement vraiment d'actualité. Là. Tout ce qu'il a nommé, premièrement, c'est vrai que ça touche la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Mais lui... J'aimerais pas être à sa place, mettons, qui est élu, puis que Mark Carney finissait par sacrifier des éléments alors que lui se présente en disant « Moi, je me présente pour défendre ça avec un parti qui va défendre ça. »
De là, l'attaque du Bloc, qui ont décidé de le qualifier de Stephen Guilbeault de la gestion de l'offre, c'est « Bonjour, voici notre caution pour vous rassurer que c'est important pour nous, la question de la gestion de l'offre, les agriculteurs québécois, les industries du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on ne va pas vous laisser tomber. » Puis le message qu'ils m'ont lancé pendant la campagne, c'est « Hey, le Saguenay, vous voulez être du côté du gouvernement. Vous voulez être représenté. » Ils vont jouer là-dessus.
Ben oui. Puis ils font bien, politiquement, stratégiquement, mais ils font bien. Hein.
Et les oppositions, les adversaires politiques, le Bloc et les conservateurs, eux, vont vouloir insister davantage sur les échecs de Mark Carney. Mais c'est dur en ce moment de trouver écho. Là. Tu regardes encore les sondages de popularité, il n'y a rien qui colle pour l'instant. Et probablement, sous-message, vraiment être sur le processus démocratique et les tactiques politiques de Mark Carney, son non-respect, dans le fond, des institutions et de la démocratie. Donc moi, je m'attends à peu près à avoir ces angles-là. Ça va être ça, les personnages, pendant cette partielle-là.
Au retour, Mathias Turcotte avec les nouvelles. Un petit peu plus tard dans l'heure, on parle aussi avec une dame que vous appréciez beaucoup, Paul Lévesque, qui va venir nous présenter les piliers d'une relation amoureuse. Fait que si vous avez un chum dans votre gang là, qui a bien de la misère à amorcer des relations, dites d'être à l'écoute dans mettons, qu'il se branche tout de suite. Comme ça, il va être informé avec les nouvelles de Mathias aussi. Fait que tout le monde va être content. Il y a l'application mobile Boulevard 102.1 et le blvd.fm, tout comme les bonnes vieilles ondes FM au 102.1. Qu'on revient dans les prochaines, il est 15h17 dans le retour à Boulevard 102.1. Mathias Turcotte, Antonine Iacarini, Max Larouche.
Le retour.
Il est 15h22 dans le retour à Boulevard 102.1. Je vous rappelle que cette semaine, c'est un trio Mathias Turcotte, Antonine Iacarini et Max Larouche. C'est dès lundi prochain. Ben, la gang officielle de Gravel dans le retour sera là avec Denis, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. Mathias Turcotte, dans l'actualité, il y a quelques trucs quand même qui retiennent l'attention en ce lundi.
Beaucoup, beaucoup de faits divers. Et je commence avec une chasse à l'homme qui est présentement en cours en Mauricie depuis hier. On recherche Philippe Benoît, un homme de 41 ans qui est soupçonné d'avoir tué son propre fils. Le tout qui a débuté justement hier alors que la mère du suspect de Philippe Benoît a appelé les autorités pour signaler sa disparition. Les policiers ont alors découvert un corps et une arme dans l'entrée de la demeure de Philippe Benoît. La voiture de ce dernier qui a aussi été retrouvée, mais l'homme est toujours recherché au moment où on se parle. Une opération de recherche a eu lieu à Saguenay dans le but de retrouver une personne qui est tombée dans la rivière du Moulin ce matin. On a malheureusement retrouvé le cadavre d'un jeune homme sans vie. Le jeune homme qui aurait perdu pied après avoir glissé sur une roche hier soir, les policiers et pompiers qui ont mis plusieurs heures de recherche avant de retrouver le cadavre du jeune homme. Le prix du baril de pétrole qui a connu une forte hausse au cours de la fin, une forte baisse, excusez-moi, même moi je me mêle dans cette nouvelle-là.
On n'est plus habitué. Hein?
Ben, ça monte tellement au cours des derniers jours puis au cours des dernières semaines qu'on est rendu habitué de livrer la nouvelle. Encore une mauvaise nouvelle, le baril de pétrole qui augmente, mais là c'en est une bonne. Une baisse du baril de pétrole.
Ben, une bonne. Puis j'écoutais Donald Trump tantôt essayer de nous montrer à quel point il était bon pour l'économie. C'est comme lui qui a créé le problème
non,
à la base.
Non, effectivement. Mais pour nous, pour l'instant, à cause que ça fait 3 jours qu'il n'y a pas de frappe américaine sur l'Iran, on voit une baisse du baril de pétrole. Est-ce que ça va se répercuter à la pompe? Ça dépend si on va être capable de stabiliser la chose durant suffisamment longtemps pour que ça revienne jusqu'ici. La raison de l'arrêt des frappes reste nébuleuse, mais ce qu'on nous dit, c'est que Donald Trump veut négocier avec Téhéran. Et selon les dires du président américain, on affirme même avoir de fortes chances de conclure un accord avec l'Iran. Puis pendant ce temps-là, puis vous allez avoir un sentiment de déjà-vu quand je vais vous dire ce que l'Iran dit de son côté, les dirigeants iraniens, eux, demandent négocier avec les États-Unis. Fait que d'un côté, on a Donald Trump qui dit « Hey, on est tout près d'un accord, fait que j'ai arrêté de bombarder. » Puis l'Iran qui répond, qui dit « Non, mais on n'est même pas en négociation. »
C'est tellement le jour de la marmotte. Là. Ça fait des mois que c'est exactement ça qui arrive. Je suis assez écœuré.
D'anciens pensionnaires de l'orphelinat du lac Sergent qui ont déposé une demande d'action collective contre l'Institut des Frères de Notre-Dame de Miséricorde. Ce qu'on demande, en gros, dans cette action collective-là, c'est que l'Institut soit reconnu coupable des agressions sexuelles commises dans ces lieux entre 1939 et 1976. Ce qu'on nous précise dans cette action collective-là, c'est que plusieurs frères sont ciblés. Le frère Jacques, Mario, Richard et Jelly. Ce qui se serait passé, c'est que ces quatre personne-là aurait agressé à de multiples reprises de jeunes enfants qui se trouvaient au sein de l'institution. Il y aurait eu des dénonciations auprès de la direction qui aurait complètement fermé les yeux sur les actes. Ça parlait même au sein de l'institution. Telle personne, c'est un agresseur. On dit dans la demande d'action collective, entre autres, que ce serait rendu, que c'était rendu systématique au sein de l'établissement. Chaque année, les vacances de la construction sont très difficiles sur les routes. Là, c'est les périodes, une des périodes les plus meurtrières sur les routes. Depuis, ça fait 10 jours de vacances jusqu'à maintenant, on est déjà à 13 décès de ce que nous rapporte la Société de l'assurance automobile du Québec. Et dans au moins 9 de ces 13 décès-là, c'est un comportement humain et qui est directement responsable de la collision. J'en profite donc pour vous rappeler, même si on n'est pas en hiver, même s'il n'y a pas de neige sur nos routes, faites attention les amis. Le pont Gordie Howe a finalement ouvert ses portes à la circulation automobile aujourd'hui, ce midi. Le pont qui rallie Windsor et Détroit relie justement un passage commercial très important. C'est 30% du commerce Canada-États-Unis qui circule. Ça met donc fin à une longue saga en lien avec l'ouverture de ce pont, avec notamment le président américain Donald Trump. Un homme de 58 ans, Stéphane Nolin, a été arrêté du côté de la République dominicaine. Ça faisait environ 5 ans que cet homme-là était recherché par le service de police de la ville de Québec pour multiples fraudes. On parle notamment de fraude de plus de 5 000 $, de fabrication de faux documents et de l'utilisation de documents de contrefaits. Le mandat d'arrestation qui pesait contre l'homme depuis août 2021, c'est un grand travail à la fois du service de police ici en collaboration avec les autorités de la République dominicaine qui leur ont permis de mettre la main sur l'homme. Mélanie Rocco, qui est une employée du CHSLD de la Prairie, perdra son emploi au cours des prochaines semaines après 27 ans à l'emploi. Je vous fais son histoire grosso modo. En 2024, elle a dénoncé qu'un préposé aux bénéficiaires aurait frappé une résidente. Après avoir signalé les faits à la direction, ça n'a pas donné de résultat, elle s'est tournée vers le protecteur du citoyen. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que Santé Québec a réagi en suspendant sans solde Mélanie Rocco pendant 10 jours parce qu'elle s'était tournée vers le protecteur du citoyen. Ce qu'on disait, c'est que la femme avait utilisé les mauvais canaux. Du côté du syndicat, on contestait en disant que c'était plutôt des représailles cachées. Maintenant, ce qui s'est passé, l'évolution du dossier, c'est que le 8 juillet dernier, le poste qu'occupe Mélanie Rocco a été effacé. Le poste de chef de module au centre-jour a été aboli avec effet au 8 août. Donc, dans quelques semaines, elle perdra son travail. Du côté de Santé Québec, on dit on voulait simplement abolir le poste. Mais du côté du syndicat, on dénonce quand même le fait en disant que c'est des représailles cachées de Santé Québec. Et je termine avec un coup de feu qui a été tiré vers le consulat américain du côté de Toronto ce matin. On recherche encore le suspect qui était dans un Honda Accord blanc. Il se serait enfui de la police à la suite après avoir tiré ses coups de feu sur le consulat. Heureusement, aucun blessé, mais l'homme qui se faisait pourchasser par la police avait une vitesse tellement haute que les policiers n'ont pas eu le choix d'arrêter de poursuivre par mesure de sécurité.
Merci beaucoup, Mathias. Au sport, le Canadien de Montréal qui a annoncé cet après-midi l'acquisition de l'attaquant Sacha Pastujov des Ducks d'Anaheim. En retour du petit attaquant Sean Farrell, Pastujov, 23 ans, qui a disputé 71 matchs avec les Gulls de San Diego dans la Ligue américaine l'an dernier, a inscrit 21 buts, récolté 57 points. Il avait été un choix de troisième ronde des Ducks d'Anaheim au repêchage 2021 de la LNH. À cette époque, là, je suivais beaucoup les jeunes joueurs juniors et moi, je voyais Sacha Pastujov comme un choix de première ronde. Fait que là, je le voyais glisser puis glisser. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Faut que le Canadien saute là-dessus. Eh bien là, plusieurs années plus tard, alors qu'il est maintenant âgé de 23 ans, il s'amène à Montréal. Je pense que, je serais surpris que ça devienne vraiment un joueur régulier dans la LNH, mais j'aime bien le guess qui est pris ici. Je pense que c'est surtout un gars qui va être dominant avec le Rocket de Laval, puis ça en prend. Au baseball, le défaite de 6-1 des Blue Jays hier face aux Red Sox. Nouvelle série qui s'amorce ce soir 18h45 face aux Nationals à Washington. Pour ce qui est de nos capitales, autre remontée exceptionnelle hier en route vers une victoire de 8-7 pour compléter le balayage face aux Bird Dogs de Down East. Congé aujourd'hui, série à Trois-Rivières dès demain. Et là, ben, notre grande passionnée de cyclisme voulait nous faire un dernier petit update du Tour de France. Je pense que c'est toi.
C'est moi!
Oui!
Ben oui, je l'ai écouté.
Ben oui, avec la vue exceptionnelle.
Avec la vue exceptionnelle. Mais tu sais, tantôt, tu parlais de ton spectacle, t'étais à l'Agora, oui, c'était beau.
Les bateaux, le château, bon, la lune.
Dis-toi que le Tour de France, c'est ça pas mal aussi. Même si moi, le vélo, c'est pas nécessairement une passion chez moi, j'aime bien quand même regarder le Tour de France parce que c'est magnifique. Cette édition qui se termine sans surprise par une victoire de qui, Mathias? C'est une joke,
oui,
c'est une joke.
Oui.
On fera pas de quiz, on fera pas de quiz.
C'était Pogacar.
Bravo, Maxime.
Ah, t'étais au courant, toi?
Ben, soit...
Un vrai gars de sport.
Ouais. Pour vrai, c'est le seul nom que je connais. Fait que je me disais, ça doit être lui qui a gagné puis ça doit être le meilleur si c'est le seul nom que je connais. Quoi qu'il y avait son nom dans l'actualité récemment pour d'autres raisons. Là.
À cause des pipi tests, les tests de dopage. Oui, en fait, Pogacar, c'est sa 5e victoire au Tour de France. Donc, si c'est un nom que vous n'avez pas entendu dans les dernières années, probablement que vous viviez sous une roche ou vraiment
vous
votre
vous
algorithme
vraiment
vous en foutez complètement. Mais
je pense
savez...
que je suis surtout la deuxième option.
Ben oui, puisque Mathias, tu suis énormément l'actualité et je le sais. Mais Tadej Pogacar, c'est aussi quelqu'un qui, bon, ça suscite un certain enthousiasme étant donné que c'est une vraie machine, mais il nous visite à Québec une fois de temps en temps parce qu'on a notre Grand Prix cycliste à Québec. Vous pouvez aller les voir, là, les cyclistes qui sont autour de France, ils sont à quelques mètres de vous, c'est quand même impressionnant. Donc, pour ceux qui suivent un peu le cyclisme et même les curieux, puisqu'on parlait de bateau tantôt, que ça attire pas juste des passionnés de bateau, je vois vraiment quand même un engouement qui est croissant là, autour du cyclisme dans les dernières années.
Et déjà, à 27 ans, Tadej Pogacar devient celui qui, à égalité, a gagné le plus de Tour de France avec 5.
Oui, dans le fond, il rentre dans une espèce de club select dans lequel on a les plus prolifiques gagnants de Tour de France. Mais lui, vraiment, ce qui est particulier, c'est que c'est le plus jeune à avoir atteint là, cette marche de 5 victoires. C'était la dernière étape hier, la dernière étape du Tour de France. Bon, le Tour de France, cette année, partait de Barcelone. C'était magnifique. Il y a eu toutes sortes de décors extraordinaires. Mais la dernière étape du Tour de France, ça arrive toujours sur les Champs-Élysées. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique à écouter la dernière étape, si vous en avez une à regarder. Donc, j'ai pris le temps de regarder tout ça hier. C'est pas Pogacar qui a gagné la dernière étape, là, la 21e étape de ce Tour de France. C'est Mathieu Van Der Poel. Et on a vraiment vu, là, dans le dernier kilomètre, Pogacar juste lâché. Donc, il était deux pendant très longtemps à la fin de l'étape, en avant du peloton. Et à un moment donné, tu as vu le maillot jaune de faire comme « OK, je ne suis plus capable » et se laisser aller là, derrière le peloton et laisser Van Der Poel gagner cette dernière étape. Ce Tour de France-là va avoir été marqué principalement, oui, par la domination de Pogacar, mais aussi par la chaleur. Ça a été les canicules épouvantable pendant le Tour de France. Puis ça a amené le Tour de France à devoir mettre certaines adaptations, notamment une plus grande flexibilité pour le ravitaillement, des mesures de rafraîchissement, là, par exemple, des espèces de foulards de glace. Là. Il y avait comme des espèces de vestes qui se mettaient sur les épaules autour du cou pour les refroidir, puis ça n'avait aucun bon sens. Déjà que c'est des performances physiques complètement folles, là, le Tour de France.
Hey, mais en venir à pied tantôt, j'ai marché 20 minutes... Et je suis arrivé, j'étais en sueur, là, puis il faisait quoi? On était au ressenti aux alentours de 30 quand je me suis envenu à midi.
Donc, je te laisse imaginer quand tu montes une montagne en
débile
vélo. C'est comme complètement fou. D'ailleurs, le gagnant de la dernière étape s'est écroulé là, après avoir passé la ligne.
Avec raison, mais y a-t-il une controverse avec la victoire de Pogacar? Là, de ce que je comprends, il y avait eu des tests de dopage.
Oui, ça, c'est un des autres éléments qui ont marqué cette édition-ci. C'est que...
Mais il est clean. Comme
y a une... Pour l'instant, oui.
Ouais, il y avait
parce
eu...
Je ne sais pas si vous saviez, mais des fois, c'est à retardement qu'on apprend les dopages. Mais oui, il est clean. Il a été testé en plein milieu. En fait, lui, pas en plein milieu, à la fin de la nuit, à 5 heures du matin, alors que son principal adversaire, Vingegaard, lui, s'est fait tester à 2 heures du matin.
C'est ça, la controverse.
Et la controverse, c'est qu'il y a vraiment une injustice là-dedans. Vingegaard qui s'est pété la gueule le lendemain en vélo et qui a dû se retirer du Tour de France. Et je pense que Pogacar était déçu de gagner sans avoir son principal némésis à ses côtés.
Merci beaucoup, Antonine. Au retour, la sensationnelle Paul Lévesque vient s'asseoir en studio avec nous. Aimer, ça s'apprend. Les piliers d'une relation amoureuse, c'est de ça dont on parle. Si vous avez des questions, des réactions, 418-971-1021 par texto. Un numéro dont vous aurez aussi besoin sous peu, parce que je vous donne 4 billets pour le gros gala de la NSPW le 21 août prochain. Ça s'en vient dans le retour à Boulevard.
Le retour. retour.
15h39 minutes dans le retour à Boulevard 102.1. Mathias Turcotte, Antonine Iaccarini, Max Larouche avec vous et se joint à nous pour la prochaine discussion. Vous l'adorez, Paul Lévesque vient d'arriver en studio. Salut, Paul.
C'est un bonheur, c'est une belle accueil.
Ben oui.
Toujours.
Très heureuse d'être avec vous. Une première avec Mathias, qu'on m'a dit très sage dans le sens vieillard. Alors, on va découvrir ça.
Mais c'est parce que Mathias, ça fait longtemps qu'il est en relation amoureuse quand même.
Ça va faire 3 ans, oui.
Ouais, c'est ça.
Okay. Il a commencé à 12 ans.
C'est long, ça. Et pourquoi je parle de relation amoureuse,
oui.
C'est que c'est le sujet de notre discussion avec Paul. Absolument. Aujourd'hui. Paul, spécialiste en comportement humain. Mmh. Souvent, quand on parle de comportement humain, c'est pas long qu'on vient à parler de comportement en relation. Et aujourd'hui, Paul, tu nous parles des 4 piliers pour mettre en place une bonne relation amoureuse.
Absolument. Tu sais, on parle de beaucoup de choses, puis des fois, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. J'ai donc fait du ménage. Puis tu sais, quand je viens donner une chronique, je me fais une tête. C'est-à-dire, je relis, je vais voir. Donc, j'en ai sorti 4. Je me dis, quand il y en a 75, il y a peu de chances que tu y suives.
Ça devient compliqué.
Mais à 4, je pense qu'on devrait s'en sortir. Puis je vais les présenter à ma sauce aussi. Donc, clair, simple et applicable. Donc là, vous êtes prêts?
On est prêts.
Et puis là, s'il nous reste du temps, vous verrez si ça vous tente. J'ai préparé 2 extras, on verra si on peut. Si l'autre, il n'est pas investi, c'est-à-dire, souvent les gens disent « Oui, mais Paul, moi, je le fais, mais l'autre ne veut pas le faire. » Alors, j'ai apporté des pistes.
OK.
Puis j'ai même parlé du ghosting. Fait que
ouais,
si ça ne marche
parfait.
Pas, je vous dirai comment le faire.
Fait que si on a le temps, alors on va avoir une belle chronique aujourd'hui.
Bon, les 4 piliers. En fait, c'est 4 piliers... essentiel à une qualité relationnelle durable. C'est parce que des fois, ça dure, mais c'est pas agréable. Ce qu'on veut, c'est que ça soit agréable. C'est ça l'idée. Le premier, c'est, vous allez dire, Paul, c'est cucu, on l'entend souvent, mais je vais bien le définir, c'est la communication. OK. Et je vais te le définir dans une phrase très simple. OK? Communiquer veut dire il faut que ça fasse du bien à toi, mais aussi à l'autre. Donc, on sait que la critique peut être un mode d'emploi souvent utilisé. La critique, ça te fait du bien à toi, mais pas à l'autre. Donc, en théorie, la communication, il faut qu'elle soit capable d'être florissante des deux côtés.
Si tu dis quelque chose, il faut que ce soit bon des deux bords. C'est pas juste pour te libérer d'une frustration,
voilà.
Toi, c'est pour passer un message qui va être bon pour la relation des deux côtés.
Oui, parce que si c'est juste pour te libérer, puis que tu es sur le mode critique, tout ce que ça va faire, c'est du bien à toi parce qu'il y aura une décharge, mais l'autre va être soit en protection ou en défense. Et c'est comme des ciseaux sur lesquels tu couperais un cordon qui s'appelle le lien de confiance.
Fait que ce serait quoi la bonne façon d'apporter une critique? Parce que des fois, c'est nécessaire dans une relation d'apporter
oui.
une critique, d'apporter un point constructif. C'est quoi la bonne façon de le faire pour que ce soit bon pour les deux?
Vas-y sous forme de besoin. Si tu commences ta phrase par « j'ai besoin », tu viens d'atténuer la possibilité que ce soit une critique. Mettons que je dirais, j'ai besoin que tu m'accordes un petit peu plus de temps quand tu arrives de travailler. Ça me ferait du bien.
À place de quand tu arrives de travailler, tu n'as jamais de temps pour
moi. T'es maudit soulier dans l'entrée, puis tu vas aux toilettes, puis tu t'occupes pas de moi, puis quand tu me parles, tu n'es même pas intéressé. Puis, tu comprends? Et je remarque aussi, puis là, on est 2 filles, 2 gars dans le studio.
La parité.
La parité. Chez les filles, il y a une chose qu'on remarque, et chez les gars, il y a une chose qu'on remarque au niveau de la communication. Même si on dit que maintenant, la quête d'identité fait qu'on n'y a plus de gars, plus de filles, ça existe encore. Donc, chez les filles, il y a une propension, c'est pas tout le monde, mais il y a une propension à la mitraillette. Donc, quand on communique, on va communiquer quelque chose qui nous dérange. Aujourd'hui, avant-hier, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand on s'est rencontrés, avant je te rencontre, quand on parlait de toi, tu comprends? La mitraillette. Qui est négative, bien sûr. Les gars, ce que vous avez plus à travailler, c'est la capacité de mettre des mots sur vos émotions. Donc, on sait que c'est peut-être pas ce qui est d'emblée facile. Vous allez peut-être être plus porté à le démontrer par des gestes. Donc, t'es pas d'accord, tu vas quitter, aller jouer dans le cabanon à quelque chose. Tu comprends? C'est pas tout le monde, mais pas avoir une propension. Fait qu'imagine la fille qui fait la mitraillette puis le gars qui s'en va dans le cabanon. Ouais. Fait que tu comprends qu'on n'a pas réussi à communiquer. Donc, de communiquer mes besoins, puis de maintenir la connexion. Donc, on sait que pour maintenir la connexion, il faut aussi dire des belles patentes. Parce que si on est toujours en train de dire ce qu'on trouve désagréable, c'est qu'on n'arrive pas à faire une complicité, une connexion. Est-ce que vous resteriez avec quelqu'un qui est toujours en train de vous dire des affaires plates?
Ben non, il faut qu'il y aille... Faut que ça soit nourri. Est-ce que c'est la méthode du sandwich un peu ou c'est de réussir à montrer à l'autre son intérêt dans ce qu'on est en train de demander?
Oui, absolument. Traiter cette personne-là comme une personne importante. Tu vas prendre le temps au travail de questionner comment tu vas, de prendre du temps. Tu arrives chez vous, les souliers volent, puis la bienveillance revole aussi. Prendre le temps de s'intéresser à l'autre, de prendre des nouvelles. Puis comme le négatif est 5 fois plus fort que le positif, une critique devrait être associée à la capacité de faire 5 mentions positives.
Le deuxième pilier d'une relation amoureuse dont tu nous parles, Paul, puis encore là, c'est large, c'est le respect.
Oui. Puis la première chose que j'ai envie de te dire, c'est le respect des différences. T'essayes pas de faire de l'autre un clone. Je veux que tu sois habillé comme j'aime, puis je veux que tu sois comme j'aime, puis je veux que tu sois comme j'aime. Puis... On peut-tu accepter la différence de l'autre? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mentionner qu'il y a des choses qu'on trouve plus faciles ou plus difficiles, mais accepter la différence. Puis quand tu as à respecter l'autre, si tu as à faire une critique, on revient avec la communication, tu critiques la situation, pas la personne. OK? Exemple. Je trouve ça difficile de ramasser tes poils dans le lavabo tous les jours. OK? Ah, t'es un maudit cochon. T'es pas capable de... Non, mais c'est ça, pareil. T'es pas capable de te ramasser, tu me tapes ses nerfs, maudit.
Mais ça, c'est du défoulement, Paul. Ça, tu peux pas penser que tu vas atteindre ton objectif en présentant tes informations comme ça.
Je pense ça, mais pourtant, tu sais, pour faire beaucoup de consultations quand même... Là,
ça arrive quand même souvent.
Ben là, malheureusement, il y a comme... Plus tu es dans l'intimité avec quelqu'un, plus tu devrais en prendre soin. Alors que ce qu'on remarque, c'est plus qu'on est dans l'intimité avec l'autre, moins on va mettre de sauts de sécurité. Le filtre devient avec des gros trous. C'est pour ça qu'on fait la chronique d'aujourd'hui, pour se rappeler que si on veut une durabilité, il faut prendre soin de l'autre. Tu comprends? Si tu es assis sur un divan, puis tu manges du spaghetti, puis tu lances les pâtes là-dessus, puis que tu sautes avec le chien, probablement qu'il ne résistera pas longtemps. Bien, un humain puis une relation, c'est la même chose.
Le prochain pilier, Paul, je le trouve super intéressant parce qu'on parle souvent des fameux langages de l'amour. Parce que tout le monde a des façons différentes de montrer son amour. Puis je trouve que ça rejoint directement ton troisième pilier d'une relation amoureuse, qui est l'engagement. Parce que l'engagement ne sera pas démontrer de la même façon pour tout le monde non plus.
C'est vrai. L'engagement, ça provoque le sentiment de sécurité. OK? Et tu remarqueras que plus quelqu'un est insécure, plus il va demander des signes d'engagement. Donc, on peut penser que si ça fait 2 mois que tu es avec quelqu'un et elle te demande tout de suite d'avoir un bébé, peut-être qu'on peut penser à de l'insécurité. Tu comprends? Fait que l'engagement, c'est démontrer que l'autre prend ça au sérieux, qu'il a envie d'avoir une projection dans l'avenir avec toi, que tu peux te laisser te déposer parce que l'autre s'investit dans la relation. Et tu as raison, Maxime, ça ne prend pas tout le même visage. Il y en a qui vont acheter une maison ensemble, c'est de l'engagement. D'autres qui vont préparer un voyage ensemble, c'est de l'engagement. Mais on sait que si on veut se sentir en sécurité, l'autre doit démontrer qu'il a envie de se projeter dans l'avenir avec soi. Un avenir qui peut être visible de façon différente, là, tu comprends? L'avenir ne veut pas dire dans 20 ans, mais ça veut dire qu'on est capable de penser qu'il y aura un futur ensemble.
Mais l'engagement, selon le pilier que tu nous présentes, ça c'est plus sur l'engagement à moyen-long terme, alors que je passe au quatrième pilier. Ça peut être plus sur le court terme de ce que j'en comprends, l'attention au quotidien.
Oui. Mais tu sais, l'engagement, on pourrait conclure en disant, c'est se bâtir dans l'action.
Pour le plus long terme.
Pour le plus long terme, OK? L'attention quotidienne, c'est se sentir vu, apprécié et aimé. Malheureusement, combien de personnes me consultent pour dire qu'ils ont l'impression d'être invisibles pour l'autre?
Mais as-tu l'impression, justement, que c'est lui qui est le moins respecté dans les relations à long terme? Là, souvent, on a l'impression que c'est un peu ça qui se perd dans le temps, ces petites attentions-là.
On s'oublie.
Oui, ouais. Ben, t'as raison. Je pense que c'est celui qui est le moins nommer. Tu sais, les trois premiers, vous allez dire, Paul, j'ai entendu ça un peu partout, etc. Mais celui-là, on le nomme peu, alors que c'est celui qui est le porteur des micro-gestes au quotidien. Les tout petits gestes qui font la différence. Des petites choses qui créent nos habitudes, qui créent l'impression que je compte pour l'autre. Puis ces petits gestes-là, ils se perdent parce qu'on se prend pour acquis.
Puis aussi, plus la relation avance, plus on accumule de choses. Tu sais, j'écoute les quatre piliers, je trouve ça logique, brillant. Mais je me dis, tu sais, par exemple, de pas arriver sous forme de critique, c'est sûr quand ça fait 200 fois que tu demandes à ton chum de pas lancer les souliers dans l'entrée, mettons. C'est sûr que ça devient difficile de faire de la communication non-violente.
Ce que tu dis... Bon, premièrement, on n'a pas de pouvoir ses autres juste sur soi. Donc, il est vrai de dire qu'on peut répéter 1 million de fois à l'autre puis que jamais il s'exécute. On n'a pas de pouvoir ses autres. C'est pour ça que tu arrives à un moment où tu considères que répéter donne plus rien. Donc, tu dois être sur le mode solution.
Il faut trouver une autre manière.
Une autre alternative.
Moi, je mets les souliers dehors maintenant. Je les lance dans le banc de neige. Est-ce que c'est une bonne idée?
Ben là, on... T'es lancé en piscine l'été.
L'été, ça dérange moins, mais l'hiver, ben, c'est plus efficace.
Ce que j'entends, Antonine, c'est, on appelle ça une technique d'impact. C'est-à-dire que tu ne parles plus, tu agis, puis ça donne quoi finalement?
Ben, chez nous, j'essaie toutes sortes de choses. Mon chum est vraiment quelqu'un de gentil. Tous les piliers, communication, faire des petits gestes, tout ça, là, il remplit toutes les cases. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je ne sais plus comment demander quelque chose. Mmh. Et j'ai baissé mes standards le plus que je pouvais, mais là, on arrive comme dans le noyau dur. Et là, on dirait des fois, j'essaie des choses. Fait que, par exemple, les bas qui traînent à côté du lit, ou les boxeurs qui traînent à côté du lit. Il y a 12 heures, sinon je donne un coup de pied dessus, ça s'en va en dessous du lit d'un mouton de poussière en dessous du lit. Puis là, des fois, il cherche un pantalon, il est en dessous du lit parce qu'il traînait à terre. Les souliers, ouais, j'ai commencé à les mettre à l'extérieur quand je m'enfarge dedans, des choses comme ça.
Puis ça donne quoi?
Ça marche un peu, je suis obligée de dire. Bien, premièrement, ça part une discussion. J'ai pas critiqué personne. Bon, des fois, ça le fâche, des fois, ça le fait rire, ça dépend. On essaie des affaires.
Bien, ce que j'aime là-dedans, c'est que tu essaies des choses.
Non, mais tellement.
C'est ça. Mais l'idée, c'est, rappelez-vous, on n'a pas de pouvoir sur les autres, donc tu as à prendre une décision. Soit que tu vas les rentrer, les maudits souliers, puis tu vas fermer ta boîte. Non, mais je veux dire, il y a une panoplie, OK? Mais tu vas être plutôt à la recherche de solutions, mais une solution sur laquelle toi, tu as du pouvoir. Parce que sinon, tu accumules les frustrations. Puis il se peut que tu passes 20 ans avec quelqu'un puis que jamais il va ramasser ses souliers.
Je commence à arriver à cette conclusion-là. Mais moi, j'ai une question parce que j'écoute encore une fois ces piliers-là, je trouve ça bon. Est-ce qu'à ton avis, il y a des gens qui sont incompatibles?
Oui.
Ça existe?
Bien, je te dirais qu'il y a des gens qui ont une compatibilité avec un pourcentage d'échecs plus grand.
Oui.
C'est pour ça que je te disais accepter la différence. C'est pour ça que, je vais dire un gros mot, compromis, consensus. C'est là, puis là, il y en a qui vont dire, si on fait trop de compromis, le couple est voué à l'échec. Mais je pense que le compromis, c'est que chacun se retrouve dans le milieu. Tu comprends? Donc, ce que ça veut dire, c'est, ben si moi, mes souliers dans l'entrée, ça m'énerve, je ne suis plus capable, mais que l'autre, ça ne l'énerve pas. Non, mais c'est ça, au fond, chez vous.
Ben
là.
Oui.
C'est exactement ça. Donc, tu dois régler le problème pour être bien chez toi. Donc, ça se peut que tu décides que les souliers, tu les ranges toi-même. Puis tu peux décider aussi de faire une technique d'impact qui pourrait prendre plusieurs visages. OK? Puis tu pourrais aussi te demander comment je peux faire une communication autre que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant.
Je vais penser à ça.
Dans le cas, mais mettons le principe de compromis, puis là, leur rédaction est plus complexe que ça, mais mettons qu'on prend juste l'exemple des souliers.
Les souliers.
Puis des bas. Oui. Le compromis pourrait-tu être genre, OK, je vais endurer tes souliers, mais je veux plus voir de bas à terre par contre?
Absolument. Absolument. Ça pourrait... Au fond, là, tu vas te demander, Antonine, là, c'est quoi pour toi le degré de choses que tu peux supporter avec
ben
un
oui.
pourcentage.
Puis je les supporte, là. Je veux dire, ma relation va très bien. Je donne un exemple un peu
oui,
anodin.
Oui, mais c'est parce que c'est humoristique. Puis ça, des fois, de prendre des choses au ton léger, ça aide après ça à faire le transfert pour les choses plus difficiles.
Exact.
Tu comprends?
Puis, tu sais, il y a une différence aussi. Essayer de communiquer sur les souliers dans l'entrée, c'est pas comme communiquer sur des sujets beaucoup plus sensibles comme la famille de l'un et de l'autre, absolument, l'argent, les enfants, la manière dont on éduque les enfants. Tu sais, quand trouver une solution pour les souliers, ça va, oui, aller, là. Mais quand on applique les piliers, moi, je le vois vraiment plus comme un outil pour ces enjeux-là qui ont, oui, plus de chances de créer des conflits graves.
En fait, je pourrais vous guider avec 3 colonnes. OK? Maintenant que tu fais l'exercice, là, on part d'Antonine, mais on rejoint à peu près tout le monde. Il y a 3 colonnes quand tu es en couple. La première colonne s'appelle les petits riens. Donc, cette colonne-là, c'est tous les gestes que tu dis, hey, je pognerai pas une chicane avec ça, ces petits boxeurs, moi, juste les prendre puis les mettre moi-même dans le panier. Mettons, tu dis, ça, moi, je mets pas de gaz là-dessus. La deuxième colonne, c'est les pas le choix. C'est-à-dire que tu réalises que tu ne pourras pas mettre un X sur ces essentiels-là parce que c'est tes besoins. Donc, ça veut dire que ton énergie va être mise à trouver des solutions jusqu'à temps qu'on arrive à une satisfaction. Tu sais, peut-être, par exemple, tu pourrais mettre dans cette colonne-là le respect. Moi, c'est bien de valeur, mais il n'y aura pas de manque de respect, il ne me touchera pas. Et ça, c'est un pas le choix. OK? Et il y a l'école de la vie, ce que tu as fait. Donc, l'école de la vie, c'est une technique d'impact. C'est-à-dire, trouver quelque chose qui peut être humoristique, qui pourrait être... Tu sais, tu pourrais prendre ces bobettes, par exemple, puis tu sais, les accrocher à quelque part pour qu'ils soient visibles jusqu'à temps que la corde à linge soit pleine.
Ah, c'est bon,
à l'intérieur.
Bonne idée.
Non, oui, mais oui, si tu veux des idées, moi, la technique d'impact, je suis hot, là. Non, mais moi, je suis une des best au niveau des techniques d'impact. Quand tu utilises l'amour et non la frustration. Donc, on sait que les techniques d'impact, pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'ils restent sur un thème de rigolothérapie et pas de vengeance.
Pas pour humilier l'autre.
Voilà. Il faut que ça soit coco, là. Tu sais, je pourrais te dire, bon, là, on sort du couple, mais tu sais, mon fils qui faisait pas litière, que c'était un engagement, je lui avais dit mille fois. J'avais annoncé mes couleurs en disant, mon loup, si ça continue, tu vas avoir une surprise dans son sac d'école. Bon, un bonjour, au lieu du lunch, il y a eu les litières du chat dans un sac de plastique, dans le sac d'école. Non, mais je l'avais averti. Non, mais tu sais, j'ai
l'air... C'est quand même plus sympathique qu'on n'a plus de chat. On s'en est débarrassé, tu faisais pas la litière.
Je te jure que ça a marché. Pas parce qu'il y avait la litière dans son sac, mais parce que j'ai tenu parole. Parce que, tu sais, puis finalement, c'était un peu de rigolothérapie. Puis tu sais, je l'avais mis dans un sac, ça n'a pas salué ses affaires, mais bon. Mais technique d'impact, c'est la 3e colonne. Donc, tu vois, petit rien, pas le choix. Technique d'impact, c'est qu'on trouve un geste qui va nommer quelque chose sous forme d'humour. Si vous manquez d'idées, envoyez-moi un petit coucou. Là, je suis vraiment bien ferré là-dessus.
Paul, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle.
Commence par la mauvaise.
La mauvaise, c'est qu'on n'aura pas le temps pour le petit gravy que tu nous avais préparé aujourd'hui.
Oui.
La bonne nouvelle,
oui,
c'est qu'on va avoir du temps en masse dans les prochaines semaines pour traiter ces sujets-là parce qu'on va se voir souvent, nous, dans le Point de Max, dans l'Open Mic avec Audrey.
Oui! Bien, ça commence la semaine prochaine.
Puis après, lundi, hein?
Lundi. Je le fais une fois, puis après ça, je pars 3 semaines en vacances. Mais en tout cas, ça va nous donner l'eau à la bouche. Tous les lundis, à 11h, je serai avec vous. Hein? C'est ça.
Yes.
Puis on va s'étendre sur des sujets. Puis j'ai envie que ce soit des sujets que vous avez envie d'entendre parler. Hein? Si vous avez des suggestions, moi, je suis ouverte. Tant que ça ne parle pas de mécanique, puis ça parle de comportement humain. Fait qu'au fond, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est traiter l'autre comme vous voudriez être traité, puis on sera pas loin de la vérité.
Paul Lévesque, spécialiste en comportement humain, un gros merci, puis on se revoit bientôt.
On se revoit la semaine prochaine.
Salut, Paul.
Bye-bye.
Au retour, je vous garde, j'ai des billets pour le gros show au Stade Canac de la NSPW. Ça se passe le vendredi 21 août prochain, donc ça va se passer au 418-971-1021. Préparez votre téléphone cellulaire et vos textos, puis on va faire un petit tour aussi des grosses nouvelles qui marquent l'actualité aujourd'hui, qui l'ont marqué au courant de la fin de semaine. Et je sais qu'Antonine et moi, on a accroché aussi sur un sujet, puis qu'on s'est posé exactement la même question. Ça se guérit le sida. Puis ça a l'air que oui.
En tout cas.
Ouais. Fait qu'on s'en parle au retour de la pause. Vous écoutez le retour à Boulevard 102.1, 15h58.
Le retour de Boulevard.